Bon matin, Maître Girard.
Bon matin.
C'est un recours collectif qui a été autorisé, qui a inspiré la question de ce matin. Il y a une juge qui a donné le feu vert à une action collective contre des sites de réservation d'hôtels en ligne comme Expedia.ca pour des frais hôteliers supplémentaires qui n'étaient pas mentionnés dans le départ. Juste pour les auditeurs, je résume, là, c'est que souvent vous aviez, par exemple, une réservation en ligne qui se faisait sur un site majeur et il y avait un petit tarif quelque part dans les petits caractères qui n'était pas expliqué. On disait frais hôteliers, c'était comme une espèce de frais cachés là, qui était inséré là-dedans, un 20, un 30 $, un 10 $ selon évidemment les différents achats. Ce qui a amené la question de ce matin, c'est de se poser, c'est de se dire comment ça fonctionne un recours collectif. On en a eu plusieurs là, au cours de la dernière année qui ont été autorisés, mais qu'est-ce qui permet d'avoir un recours collectif?
Un recours collectif, c'est un recours qui procède en plusieurs étapes, mais qui est très distinctif en ce qu'il rassemble plusieurs personnes. Alors, il y a une personne qui est autorisée à entreprendre le recours pour plusieurs membres. Alors, c'est un client normal là, qui va voir son avocat et qui dit « Moi, je vais entreprendre un recours pour une masse de personnes qui, tout comme moi, ont subi X préjudice. » Alors, il y a un système de filtration à la Cour pour ce genre de recours-là. Alors, la première étape pour un recours collectif, mm-hmm. c'est de demander l'autorisation de la Cour. Alors, le juge va analyser. C'est pour ça que là, vous voyez, là, le recours a été permis. Le recours collectif est autorisé. C'est la première étape d'un tel recours. Le juge regarde si l'ensemble des membres soulève des questions de droit et de faits qui sont identiques, similaires ou connexes. Mm-hmm. Et puis, si les faits qui sont allégués à la requête là, et les conclusions demandées passent la barre du test, ben ça tient la route.
Alors, la question, c'est qu'on veut pas qu'il y ait des recours collectifs à tous les cinq minutes pour n'importe quoi, là.
C'est ça. On ne veut pas de recours frivole. Mm-hmm. Alors, les gens qui s'adressent à la Cour peuvent aussi faire une forme de recours pour tester la validité de la poursuite de l'autre. Ça s'appelle une requête en rejet. Quand on voit que la poursuite qui est logée contre nous tient pas vraiment la route, on peut demander à la Cour d'intervenir immédiatement puis de mettre fin à ce recours-là en disant que c'est un recours qui est frivole, qui n'a aucune chance de succès. Mais dans le recours collectif, c'est la première étape et c'est une étape qui est obligatoire. Alors, une fois que le juge dit, bon, bien, voici, j'autorise le recours collectif parce qu'il a des chances de succès et il y a une masse qui peut avoir subi un préjudice qui est similaire ou identique. Là, le juge va procéder à la définition du groupe. Il va dire, bon, bien, voici les critères que vous devez rencontrer pour être membre du groupe. Mm-hmm. Et là, va aussi prévoir un processus pour se joindre au groupe. Alors, c'est pour ça que vous voyez dans le journal cette semaine qu'il y a ce recours-là collectif qui est autorisé. C'est fait pour informer les gens.
Que ce soit connu du public.
C'est ça. Ben oui. Alors, l'avocat qui est responsable du recours collectif va devoir publier dans différents journaux ou plateformes web des avis qui indiquent aux gens de quel est le processus pour joindre le recours collectif. Alors, si vous qualifiez, vous allez pouvoir joindre le recours, mais vous devez savoir aussi que vous pouvez vous soustraire du recours en tout temps. C'est un recours qui va procéder dans le même ordre que les autres procédures. Mm-hmm. Alors, il peut y avoir des interrogatoires, toutes sortes de requêtes pour préciser certaines choses. Ça peut se régler par un procès ou par un règlement
en cours
mm-hmm. comme un recours normal. Et ce qui est particulier aussi, c'est à la fin, c'est le recouvrement des réclamations. Alors, si la Cour en vient à condamner les défendeurs à un certain montant, là, maintenant, il faut distribuer l'argent que le défendeur va être obligé de payer. Et cette façon de faire-là, c'est par un administrateur, là, les gens vont loger leurs réclamations, et soit des réclamations individuelles ou ils vont recevoir un paiement par la fraction du montant d'argent qui a été octroyé.
Mais Maître Girard, la question là-dessus, c'est qui détermine comment ça va être divisé? Parce que, tu sais, on pense, par exemple, pour le cartel
c'est le juge.
OK, c'est le juge, parce que pour le cartel juge. De l'essence, oui. Là, on a reçu des petites cartes cadeaux, finalement. C'est comme ça que ça s'est réglé, là.
Oui, c'est le juge qui détermine ça, tout comme les honoraires d'avocats. Alors ça, c'est très particulier aussi au recours collectif parce que souvent, les avocats qui prennent ce genre de cause-là vont être payés à pourcentage. Alors, pourcentage du montant qu'ils vont aller chercher. Toutefois, c'est le tribunal qui va déterminer si les honoraires sont raisonnables. Juste en pareille circonstance.
Mais donc, pour un avocat, c'est donc assez particulier d'accepter ce genre de mandat-là. Vous devez croire en la cause un peu, là.
Oui, parce que les avocats qui acceptent ces recours-là, de faire ces recours-là, travaillent, avancent souvent les frais. Il y a un fonds de disponible pour les recours collectifs, là, mais ça a certaines limites. Mais les avocats, en grande partie, vont avancer une bonne partie des frais. Le membre qui va initier la procédure va aussi contribuer. Alors ça, c'est des choses qui sont prévues dans la convention d'honoraires. Mais si vous joignez un recours collectif et que le recours est rejeté, bien, d'habitude, les membres n'ont pas à payer les frais, disons les dépens. Les gens ne les paient pas. Alors là, dans ce cas-là, on demande des dommages-intérêts. Hein. Vous savez, les dommages-intérêts, c'est pour compenser une perte qu'on a subie. Mais l'avocat semble aussi dire, je vais demander des dommages punitifs parce que les exploitants de ces sites web-là ont, de manière intentionnelle, caché des frais. Alors, la juge dit, oui, les frais apparaissaient pas à la première page, mais à la deuxième page, ils sont là. Alors, j'autorise le recours, mais je porte ça à votre attention que les frais que le consommateur devait payer sont indiqués sur le deuxième écran. Or, depuis l'introduction du recours, les exploitants des sites web auraient modifié cette façon de faire-là pour que les frais soient plus clairs. Alors, l'avocat en charge du recours dit, ben voici la preuve de l'intention des exploitants de cacher des frais. Et puisque c'était intentionnel, j'ai l'intention de demander des dommages punitifs. Les dommages punitifs, en droit québécois, c'est pas automatique. Il faut que ça soit prévu par la loi. Il faut que ça repose souvent sur la charte.
Merci beaucoup pour ces précisions ce matin, Maître Girard.
À suivre.
Passez une bonne journée, à suivre pour ce recours collectif-là, puis il y en aura d'autres de toute façon. On aura sûrement l'occasion d'en reparler.
Au revoir.
Merci, bon week-end.